dans le roman de Robert Musil, pointait du doigt. Les deux ailes d'un grand oiseau multicolore et muet. Il avait mis l'accent sur les ailes et sur l'oiseau muet multicolore, pensé de peu de sens, mais chargé de cette énorme sensualité grâce à laquelle la vie apaise d'un seul coup, dans son corps sans limite, toutes les contradictions rivales. Il s'aperçut que sa voisine n'avait rien compris. Néanmoins, la douce chute de neige qu'elle répandait dans la voiture n'avait fait que s'épaissir encore. Sarah et cette chute de neige sur le désert, pensais-je, alors qu'elle m'avait presque rejoint au haut de ce promontoire d'où il n'y avait rien à observer. Je crois que je suis en train de m'assoupir, que je m'endors doucement, la face caressée par une brise du désert dans le 9e arrondissement de cette nouvelle Vienne qu'aucun des deux Musil n'a connue, sous ma couette sur mon oreiller, qui sont une tente de nomade intérieure, aussi profonde et spacieuse que celle qui nous accueillit cette nuit-là, la nuit au désert. Ainsi les guides d'Aloïs Musil, un camion Ben brinque-ballant s'était soudain arrêté près de nous croyant en détresse. Ses occupants, figures hâlées et ridées, enveloppées dans des keffiers rouges, moustaches raides coupant en deux les visages, ses occupants nous avaient expliqué que le château que nous cherchions se trouvait encore loin vers le nord-est, à 3 bonnes heures de piste, et que nous ne l'atteindrions jamais avant la nuit. Ils nous avaient invités à dormir sous leur tente noire, dans la plus grande tradition bédouine. Nous n'étions pas les seuls invités. Installé dans le salon, se trouvait déjà un étrange colporteur, marchand ambulant du désert, qui vendait dans d'immenses sacs de nylon gris, comme des outres démesurées, des centaines d'objets en plastique moulés, timbales, passoires, seaux, claquettes, jouets d'enfants, ou en fer blanc, théières, cafetières, plats, couverts. Ces gigantesques besaces devant la tente ressemblaient à deux grosses larves avachies ou aux haricots dégénérés d'une plante infernale. Ce colporteur était originaire du nord de la Syrie et n'avait pas de véhicule. Il parcourait la Badier au gré des camions et des tracteurs des nomades, de tente en tente, jusqu'à ce qu'il ait tout vendu, et s'en retournait alors à Alep refaire ses stocks dans le dédale des souks. Il reprenait sa tournée une fois son fourbi à nouveau rassemblé, descendait l'Euphrate en autobus, puis sillonnait tout le territoire compris entre le fleuve, Palmyre et la frontière irakienne, profitant, abusant, aurait pensé un occidental, de l'hospitalité des nomades, qui étaient autant ses clients que ses logeurs. Ce Tilly Lawrence de la casserole devait sans doute être un peu espion et renseigner les autorités sur les faits et gestes de ces tribus qui entretenaient des liens étroits avec l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et même le Koweït. J'étais très surpris d'apprendre que je me trouvais dans une maison, ainsi nomme-t-on en arabe la tente, du clan des Moutaïr. Fameuse tribu guerrière qui s'allia avec Ibn Seoud au début des années 20 et permit son accession au pouvoir, avant de se rebeller contre lui. La tribu du Mari Passeport de Marga. Muhammad Assad, le juif d'Arabie, raconte comment il participa lui-même à une opération d'espionnage au Koweït pour le compte d'Ibn Seoud contre les Moutaïr de Faisal Darwish. Ces grands guerriers paraissaient, du moins dans leur version syrienne, des plus pacifiques. Ils étaient éleveurs de moutons et de chèvres, possédaient un camion et quelques poules. Par pudeur, Sarah s'était attaché les cheveux, comme elle avait pu dans la voiture, alors que nous suivions le camion des Bédouins jusqu'à leur tente. Le soleil couchant, lorsqu'elle quitta le véhicule, embrasa sa chevelure juste avant qu'elle ne pénètre l'ombre portée de la toile noire. Pas de seconde nuit à la belle étoile, tout contre Sarah. Quelle malchance, pensais-je. Quelle foutue malchance que de ne pas avoir réussi à rejoindre ce château perdu. L'intérieur de la maison en peau était sombre et accueillant. Une paroi de roseaux entremêlée de tissages rouges et verts divisait la tente en deux. Un côté pour les hommes, un autre pour les femmes. Le chef de cette demeure,